bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Une bande originale toujours sans Nagui, coincé sur son télésiège en ivoire. Sans Nagui, mais avec Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Guillermo Bouiz. Albert Talgood.
Bonjour.
Tom Villa.
Bonjour.
Dans la dernière demi-heure, Tanguy Pastureau pour malpréter l'info, bien sûr. Et la fête, le chef de la bande originale, Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui dans la bande originale, c'est Philippe Geluck.
Bravo.
Bonjour.
Bonjour Philippe, soyez le bienvenu à ce micro sur France Inter.
Et bonne année.
Bonne année.
Bonne année à vous.
Oui.
Et bon anniversaire à mon fils, c'est aujourd'hui.
Ah ben voilà. Ah,
bon anniversaire.
Voilà, c'était idéal de venir aujourd'hui. Philippe Geluck, vous venez nous présenter Geluck pète les plombs, cette fois il va trop loin aux éditions Casterman. On parlera aussi du chat qui pète le feu.
Finis bien tes phrases, hein, sinon ça va bien.
Le feu.
Le feu. Mais avant d'entrer dans le détail, tradition qu'on a conservée en 2019, l'interro. C'est parti les garçons, vous êtes en
allez,
forme.
Allez,
chaud bouillant.
Allez, on va voir si vous connaissez bien Philippe Geluck. Pourquoi Philippe et sa maman font-ils la une des journaux au lendemain de son accouchement?
Encore un fait divers belge?
Non. Parce que c'est l'héritier du trône de Belgique.
Non plus.
Peut-être le premier bébé de l'année
ou... Non plus.
Non, le 7 mai, non.
Il y en avait eu quelques autres. Il dessinait déjà dans le ventre de sa maman?
Non plus.
Bébé cadom.
Non plus, c'était pas c'était
un accouchement en dehors d'un hôpital?
C'était sur un rond-point?
C'est en lien avec l'accouchement. Tu t'approches, Guillaume.
C'était la plus longue grossesse de toute l'histoire de la Belgique.
Elle a pas arrêté de travailler pendant.
Elle est restée 12 mois.
Elle est restée un éléphant.
Toujours pas. Toujours pas.
Petite précision.
Chacun votre tour, déjà, les garçons, pour qu'on vous entende bien. Philippe.
Petite précision, nous n'avons pas fait la une des journaux, mais la 2 ou la 3. Parce que la une était consacrée à la chute de Dien Bien Phu. Ce qui, mondialement, a été un événement plus important que ma naissance.
Un sale moment.
Quand même, l'événement Philippe Geluck arrivé sur Terre a été marqué par... Par quoi? Lors de l'accouchement. En quoi elle a pu faire une première? C'était une première.
Elle a accouché directement dans le petit lit.
Ah, césarienne.
Non.
Sous péridurale. La première.
Ça se rapproche.
On s'approche.
L'accouchement sans douleur.
C'est presque ça.
Sous coke.
Non.
Albert a dit accouchement sans
douleur.
Sans douleur. Bravo Albert. Bravo. Racontez-nous Philippe Geluck.
Bah écoutez, j'en ai peu de souvenirs personnellement.
C'est jamais faux.
Mais ce que je sais, c'est que à peu près 9 mois avant le jour de la naissance, des amis de mes parents qui étaient médecins
ont baisé ensemble avec vos parents et après boum.
Presque ça. Leur a annoncé, ils passaient des vacances sur la côte belge, ils étaient sur la plage et ils ont dit on va aller étudier à Paris une nouvelle méthode d'accouchement dit sans douleur et on reviendra pour mettre ça au point en Belgique. Et les parents ont dit quoi, c'est vrai ça, parce que le premier accouchement avait été compliqué,
ouais.
Celui de mon frère aîné, et puis ils ont dit oui c'est vrai et on sera au point dans quelques mois. Mais là-dessus mes parents sont allés faire une sieste crapuleuse, ouais. Et j'ai été mis en route sur cette décision là.
Alors ça veut dire quoi, c'était une péridurale à l'époque,
non c'était la méthode de relaxation, de respiration et de trucs comme ça, de gymnastique prénatal,
ouais.
et puis de mise en, je sais pas, c'était un peu du yoga, c'est une méthode qui n'existait pas.
D'accord.
Et qui a été instituée et puis largement répandue à cette époque.
C'était vraiment sans douleur. Ouais.
Alors oui, ça s'est très bien passé.
Pour les gens, pour les hommes.
Moi, je n'ai rien sans douleur.
Pour les hommes.
On poursuit. En 1981, Philippe Geluck sort un 33 tours. Quelle chanteuse très connue, chantée dans ses cœurs, dans les cœurs.
Qui... Morane.
Bravo.
Ouais.
Bravo.
Bah, c'est un petit pays, la Belgique.
Bah ouais, il y a une chanteuse en Belgique.
C'était Annie Cordy.
Et Annie Cordy, quoi. C'est ça.
Annie Cordy avait chanté pendant l'accouchement.
Elle s'appelait encore Claudine Leupart à l'époque. Parce
d'accord.
que c'était son vrai nom. Et c'est un disque qu'on avait, des chansons qu'on avait écrites avec Philippe Lafontaine, vous savez, l'auteur de Cœur de loup. Et c'était dans le cadre d'une émission pour les enfants. Et on a fait un 33 tours entier. Et effectivement, dans les chœurs, il y avait Morane.
C'est pour l'Olipop.
C'était pour le Lollipop. Tu as connu ça, toi?
Bien sûr.
Et ça a marché, ces 33 tours, il a marché? Vous l'avez encore?
Oui, je l'ai encore, bien sûr. Mais je ne l'écoute plus très régulièrement.
À quoi ressemblait la pochette? Vous alors, vous c'était comment dessus?
C'était une photo de moi avec des cheveux sur la tête face à un petit chien qui s'appelait Mimi et qui m'accompagnait dans l'émission. Et dans le fond, il y avait un horrible arc-en-ciel et un fond bleu turquoise, comme le pull de Albert Algou aujourd'hui. Et c'était voilà, mais c'était joyeux, c'était bien.
On poursuit. Quel est le seul journal qui a refusé...
Attendez, attendez, juste, on fait une pause, j'ai quand même la photo.
Attends. Ah oui, c'est vrai. Ah oui,
ah ben voilà.
Oui, ça vaut son besoin de paraître. Ouais.
On la mettra sur le site de l'émission.
Faudra aller voir. Quel est le seul journal qui ait refusé un dessin de Philippe?
Valeurs actuelles.
Non plus.
L'Humanité.
Non.
Le Soir.
Non plus.
Ah non.
Le Figaro.
Si, alors Le Soir, on a refusé aussi un, mais ça, c'est, j'avais dessiné les six à moi par la quéquette, et ils étaient liés par le truc, et ils disaient, il y a juste pour pisser que c'est un problème.
Les fameux six à moi peignes. Hein.
Oui, voilà.
C'est un autre journal dans lequel on pourrait imaginer qu'on peut aller très loin.
Charlie Hebdo. Harakiri et Charlie Hebdo.
C'est pas loin.
Ciné,
bravo. Ah, oui. Je vais l'accorder à...
Je lui donne. Je suis comme ça, c'est les résolutions.
C'est Ciné Hebdo, et où il m'avait demandé d'y aller fort, d'y aller loin, d'y aller voilà, plus loin que je pouvais.
C'était en 2011.
Absolument, ma rubrique s'appelle « Gueulux se lâche », et effectivement, je m'y lâche. Et puis là, ils ont trouvé que c'était « Ah non, là, tu vas trop loin, on ne peut pas ». Mais le dessin, c'était au moment des primaires du Parti Socialiste. J'avais fait un dessin où on voyait deux sexes féminins en gros plan. Et le titre disait « Après les monologues du vagin, le PS invente les dialogues du vagin ». Et il y en a un des deux qui disait à l'autre « Tu vas voir ta gueule aux primaires ». Et l'autre répondait « Les primaires, je m'en bats les couilles ». C'était dans
vous goût. Allez trop loin, vous allez trop loin.
Le journal aussi est dans goût. Enfin, qu'on peut...
Et comment ils ont justifié le refus?
Que c'était un peu un peu comme ça, voilà. C'était les vieux de la vieille, c'était Ciné, c'était Lou et je sais plus quel vieil anard.
Ouais.
Et je me disais mais eux ils devraient voilà. Et puis non.
Comme et ça, quoi, ça se passe mieux avec Catherine Ciné.
Ah mais c'est magnifique, ça a été la seule fois. Et puis c'est un petit peu mon titre de gloire, me dire que dans censuré par Ciné, c'est trop bien.
Et ça représentait quelle politique, c'était pour qui?
Les voulez dire à qui appartenaient les deux? Non, ça, je vous laisse l'imaginer. À l'époque, c'était entre Ségolène Royal et Martine Aubry. Mais on ne les reconnaissait pas, évidemment, sur le
coup. Certains peut-être.
On continue. Oui. Une petite dernière, avant de revenir à Gueluc, pète les plombs et au chat. Qu'a fait l'armée belge en hommage à Philippe Gueluc? Et ça, c'est la classe.
Ah, ils ont la guerre. Non, c'est pas la.
Envoyer des chats au front.
Non, ils ont pas des chats
sur un char d'assaut.
Non, ils n'ont pas non plus dessiné des chats sur des bombes qu'ils ont lancées sur des populations innocentes. Non, bien sûr.
Sur des avions peut-être, comme les Américains avec les pilotes et tout.
C'est à l'occasion d'une parade, je crois.
Une décoration. À l'effigie du chat.
Le chat a été décoré.
Non plus. C'est beaucoup plus impressionnant que ça.
Ou alors ils ont fait une sorte de flash mob où ils reconstituent le visage du chat.
Bravo.
Ah bon?
Oui, parce que si jamais j'étais dictateur du monde, c'est des trucs comme ça que je ferais.
Et c'était en préparation de la grande expo des 20 ans du chat à l'école des Beaux-Arts, et j'avais une série d'interprétations du chat. Alors je le fabriquais avec des morceaux de légumes, je le dessinais, je le sculptais, je faisais tout ça. Les 300 façons de faire le chat. Et la 300e, c'était 400 militaires de l'armée belge disposés sur une base aérienne en forme de tête de chat. Et alors j'étais au milieu d'eux avec une pancarte qui disait « Tous à l'expo ». Et puis je leur donnais un signe et la tête de chat se mettait en mouvement.
Génial.
Et puis c'était survolé par un hélicoptère et c'était filmé. Enfin, c'était juste magnifique.
C'est là que tu vois que l'armée belge n'a rien d'autre à foutre. Non, c'était Michel Drucker qui conduisait l'hélico. Ça n'a rien à voir.
Il ne faut pas qu'il y ait de guerre. Hein.
Attendez, s'il y avait eu une guerre pendant la cérémonie, ils auraient sauté sur leur fusil, ils seraient partis au front, évidemment.
Ouais. À part dératiser, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire.
Après, Gueluc se lâche, Gueluc enfonce le clou, Gueluc est de retour avec Gueluc pète les plombs. Cette fois, il va trop loin aux éditions Casterman. C'est le troisième tome de cette série avec un ton très grinçant, un ton qu'on ne vous connaissait pas, en tout cas dans les albums du chat, pour ceux qui ne vous connaissent qu'à travers le chat. C'est beaucoup plus noir. Et vous n'hésitez pas, je ne sais pas si c'est votre avis, en tout cas, vous n'hésitez pas à vous positionner parfois de manière radicale.
Oui, voilà. Je suis radicalisé. Humoristiquement, s'entend.
Ouais, ouais.
Mais voilà, au diable les demi-mesures. Je me dis qu'à 64 ans, je sais, je ne les fais pas.
Mais non, c'est vrai.
Surtout
après avoir vu la pochette de 33 tours.
Vous êtes mieux maintenant.
Non, mais attendez, les chanteuses qui faisaient les chœurs sont mortes, donc j'ai survécu.
Non, il est horrible, voilà. C'est assez représentatif du ton de Gueluc pète les plombs.
Exactement, mais ce n'est que la vérité.
Ouais,
et dans ce livre, je ne dis que des vérités. Je dis que ça va bien comme ça, que on sait plus où on va, qu'on va dans le mur, etc. Ce n'est que la vérité. Je ne dis que des choses vraies ou imaginaires.
Mmh. Alors il y a un dessin moi qui me fait pleurer de rire, qui mêle deux thématiques, c'est Tchernobyl et la pédophilie.
Oui. Ah oui, très drôle. Et on voit un curé nostalgique qui dit « Ah, je pense à tous ces enfants nés avec deux anus. » Voilà.
Évidemment, cette période de fête, on s'est dit « Tous nos auditeurs catholiques. »
Il y a aussi, bon appétit si vous mangez des rognons.
Il y a aussi cette belle constatation. Si le Christ s'était fait empaler, à quoi ressemblerait le signe de croix?
Je vous laisse l'imaginer.
C'est de l'observation. Juste de l'observation.
Mais en tout cas, on sent une vraie cour de récré, en fait. C'est-à-dire que vous lâchez sincèrement. Il n'y a pas de sujet sur lequel vous vous êtes dit, bon, là, je vais faire un peu plus attention parce que ça pourrait mal être entendu par le lecteur.
Il n'y en a que un. C'est que vous constaterez que dans l'album, il n'y a pas de caricature du prophète.
C'est vrai.
Par exemple, qui est quelqu'un que je respecte énormément et que je veux pas. Un jour, le chat avait dit d'ailleurs, si le prophète avait eu un frère jumeau, lui, on pourrait le représenter sans que ça pose de problème.
Ouais, ouais. Alors, pourquoi justement vous ne représentez pas le prophète? Je sais que vous vous étiez exprimé à l'époque de l'affaire Charlie Hebdo sur la représentation du divin chez les musulmans dans l'islam. Votre position était assez rare. Elle n'était pas partagée par beaucoup de monde, mais je la trouvais intéressante.
Bah, elle était beaucoup partagée par le public d'ailleurs, parce que les gens m'ont beaucoup abordé sur la question en me disant bah oui, on pense comme vous. Non, simplement, je me dis, d'abord, ce serait ridicule pourquoi maintenant? C'est juste aller se dire j'ai envie de me suicider, faire maintenant.
Alors non, ça serait la peur, donc ça serait pas la meilleure des
motivations. Non, la méfiance. Le peu d'envie de me suicider. Oui, la peur, disons-le, simplement. Et puis je trouve pas ça utile. Et puis je trouve surtout, et c'est ce que j'avais expliqué à l'époque, que la donne a changé.
Ouais.
Que pendant des dizaines d'années, voire beaucoup plus, dans nos pays où la liberté d'expression a été conquise décennie après décennie, nous sommes arrivés à quelque chose et pouvoir publier des journaux satiriques. Mmh. Les journaux satiriques sont destinés à un public qui n'est pas très très large, c'est quelques dizaines de milliers de personnes, qui sont très demanderesses d'outrance, d'exagération, de caricature, de allez-y, de plus en plus loin. Ce sont des gens qui sont éduqués à ce genre et à ce deuxième et troisième degré.
Ouais.
Et puis avec Internet, maintenant, des images qui étaient réservées à un public circonscrit, les mêmes images peuvent être diffusées en 3 secondes à travers la planète entière et être vues par des gens qui n'ont pas du tout le même historique culturel, qui n'ont pas du tout ce goût du second degré, etc. Mmh. Et donc ça peut passer pour une agression. Et le temps qu'il va falloir maintenant pour faire de la pédagogie, pour expliquer que le second degré n'est pas une agression, mais une proposition de rire ensemble et de réfléchir ensemble, ça va mettre du temps. Et donc, en attendant, je pense qu'il vaut mieux ne pas avancer en terrain miné.
C'est pas frustrant.
Bah, pour l'instant, moi, il n'y a que ça. Comme je vous dis, l'histoire avec le frère jumeau du prophète, c'est une manière d'aborder le sujet de façon latérale et pas frontale. Et je pense qu'on peut et qu'on doit continuer à faire des choses. Et je le fais d'ailleurs dans ce livre, d'essayer de chatouiller ou d'essayer d'être plus malin que le type qui est en face avec une kalachnikov.
Ouais.
Et puis surtout, on n'est pas sûr que le dessin soit ressemblant.
Et ça, c'est un problème pour un dessinateur, forcément. Donc on a évoqué quelques thèmes comme ça, mais vraiment, il y a un personnage récurrent.
Un héros.
Mm-hmm. C'est Donald Trump. Qui revient comme ça et qui est toujours très très mis en valeur.
Mais quelquefois, effectivement, j'ai fait un dessin qui est pas très, enfin qui est un peu vulgaire où on le voit pantalon baissé sur la planète. C'était après qu'il ait quitté les accords de la COP21.
Il se soulage
et je dis Donald Trump chie sur la planète, ce qui est un peu le sentiment que j'ai d'ailleurs.
Ouais.
C'est ça, c'est là que je dis, ce n'est que la vérité. Il y a un autre dessin où il dit, si Kennedy avait été armé, il aurait pu se défendre. Mais c'est exactement ce qu'il a dit quand il y a eu les fusillades dans les collèges et dans les universités. Ouais. Je ne dis que la vérité. C'est ça qui est effrayant.
Puis il y a le premier hommage à Trump qui est déjà 2 ans et toujours pas de guerre mondiale.
Oui. Et la femme dit, mais qu'est-ce qu'il fout? On attendait autre chose quand même.
Exactement.
Donc ça, c'est un des personnages, on va dire, récurrents, en tout cas, qui fait partie des personnages importants de cet album. Comment, si on revient à la genèse de cette série que vous avez débutée en 2009, je crois pour le premier numéro, le premier tome. Comment c'est venu cette idée, tout d'un coup, de laisser de côté le chat? Parce que c'est quand même, le chat, c'est vous, Philippe.
Un peu, oui. Lui, c'est moi et moi, c'est lui. Ouais. Depuis très longtemps, j'ai alterné un livre du chat et un autre. Mmh. D'abord, c'était avec le Docteur G, que je faisais à la RTBF, c'était une séquence radio, puis que j'ai un peu faite sur France Inter
sur
avec
France
Isabelle
Inter,
Motreau.
Oui,
oui, mmh, absolument. Et puis, il y a eu les Encyclopédies Universelles, enfin, qui sont des parodies d'Encyclopédie, mmh, Universelle. Entendons-nous, je n'ai pas fait une vraie. Hein.
C'est pas vous?
Non.
Attendez, il faut que je raille quelque chose sur mes fiches.
Et donc, c'était justement pour que le public et les gens qui aiment le chat restent en appétit et ne reçoivent pas forcément systématiquement tous les ans, bam, ouais, bam, bam, un chat. Et puis, donc, de faire des livres qui ont un peu moins de succès que les chats aussi, pour dire, attendez, je vais revenir. Je sais aussi faire des livres qui marchent moins.
C'est tout à votre honneur.
Il a modestie du gars.
Mais non, mais c'est vrai que ceci dit, moi, autant j'aime le chat et j'ai toujours aimé le chat, autant c'est vrai que le Docteur G et les encyclopédies, c'était fantastique, quoi. C'était vraiment. Mais c'était les side projects que, mm-hmm, que vous aviez.
Les side projects.
Et c'était. Non, mais c'était incroyable. Moi, ça m'a vraiment éduqué aussi quand j'étais adolescent à tout ça. Donc, si vous avez l'occasion de retomber sur le Docteur G, c'est une mine d'or. Le
Docteur G, c'est d'une drôlerie.
Ah oui, vraiment.
Donc, c'était une façon aussi, en parallèle du chat, de continuez-vous à vous exprimer sans être enfermé dans le carcan du chat?
Exactement, et de pouvoir répondre. Enfin, c'était une manière de répondre aux gens qui disent, mais enfin, est-ce que vous allez un jour vous en sortir du chat? Est-ce que vous n'avez pas envie de le faire euthanasier? Est-ce qu'il ne prend pas le pas sur vous, etc. Non, parce qu'il y a tout ce que je fais à côté. Il y avait la radio, il y avait la télé, il y avait un peu de scène, il y avait le Docteur G et ses dessins-là. Et puis, il y a eu surtout le coup de départ, ça a été Ciné qui m'a demandé de le rejoindre quand il s'est fait virer de Charlie Hebdo de façon totalement indigne et inexcusable, puisque ensuite, il a été entièrement blanchi par la justice. Mm-hmm. Ciné n'est pas antisémite et la justice a bien statué sur la question, même si des gens continuent à vouloir le faire croire encore aujourd'hui, après qu'il nous ait quittés. Et pourquoi je disais ça? Oui, il m'a demandé donc de le rejoindre dans ce projet de Ciné Hebdo. J'ai dit oui à l'instant même et il m'a demandé de ne pas y dessiner le chat, ouais, qu'il adorait par ailleurs, mais de faire autre chose. Et nous avons appelé la rubrique Gueulux se lâche et Patalier Patala. C'est comme ça que le titre éponyme du premier livre est né.
Et mais on est avec un très bon Gueulux pète les plombs.
Mais déjà le chat, il y a beaucoup de méchanceté à l'intérieur.
Ah oui, j'espère bien.
On le retrouve là. C'est par exemple, ce sont des cases toutes innocentes au départ. C'est une mère de famille qui se balade et il y a le chat qui dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et la maman très contente qui dit, ah oui, mais mignonne, elle s'appelle Chloé. Elle fait, non, je parlais de la poussette. Et là, c'est d'une méchanceté incroyable, puisque c'est en réaction à tous les gens qui disent, oh là là, mais que votre enfant est sublime, même quand le nourrisson est laid.
Il n'y a pas de nourrisson laid, Daniel.
Ah, si, il y en a. T'as l'impression qu'ils ont été mâchés et recrachés.
Pour citer une histoire dans le genre que j'avais fait, mais le bas, donne-moi le bas de la fin. Une histoire que j'avais faite du Docteur G. Oui. C'était le Docteur G qui recevait. Donc je lisais la lettre envoyée par le correspondant et j'y répondais au micro, tout ça sur fond de Richard Klederman au piano. Et donc c'est un enfant qui me dit, cher Philippe, je t'ai envoyé un joli dessin, j'ai 4 ans et demi et j'espère que tu pourras le montrer à la radio. Et je lui réponds, d'abord tu me parles dans ta lettre d'un joli dessin, or celui que tu m'as envoyé est affreux. Puis à ton âge, tu devrais savoir que la radio ne sert pas à montrer des images, mais à faire entendre des sons. Alors ce que je te propose, c'est de te faire écouter ta croûte. Et alors je faisais ça.
Oh non! Cruel. Voilà.
Et les gens riaient. Donc c'est bien la preuve que c'est pas moi qui suis cruel, mais le public.
Et puis après, Marion Maréchal a grandi, et voilà, s'est développée, bravo.
Et voilà, on a créé de la haine.
Elle a fait une carrière. Et là, Tom Villa, vous en avez marre que je fasse des lancements à la Nagui. Alors, le chat, ok, Gueulux, d'accord, mais pourquoi?
C'est bien, c'est précis, ça, Daniel. C'est bien, c'est hyper précis. Non, en fait, la question, c'est est-ce que ça va être un succès? Et j'ai envie de dire oui, parce que le mec est présent dans tous les toilettes de toutes les maisons de France et de Belgique avec ses albums du chat. Et vous demandez si ça va être un succès, Daniel. Alors, donc oui, ça va être un succès. Et oui, je lis des BD quand je vais. Voilà. Alors, non,
tu
mais c'est vrai,
ou...
il est. Oui, oui, oui. Bah oui, ah bah, comme, bah, ouah, bah, comme Daniel. Et, non, il est incroyable, ce chat. Soit parce que personne n'a jamais tiqué, mais il a 35 ans. Il est gros et il a un costard et ça choque personne. C'est fou. Donc c'est un gros succès en perspective. J'ai envie de vous dire, même si son dernier bouquin était nul, on le dirait pas. Déjà parce que c'est pas vrai. Et en plus, vous en connaissez beaucoup, vous, des invités qui acceptent de venir à la radio un 2 janvier.
Non, c'est vrai.
Alors, si, si, il y a des gens qui feraient tout pour venir sur un terrain 2 janvier. On en connaît. Mais bon, faire toute une émission avec la sous-secrétaire d'État à l'aménagement du territoire. Voilà. Sans moi, merci. Donc merci, Philippe Gueluc, d'être là. Rien que pour vous, c'était risqué de venir quand même. On a beau être hyper pro dans l'équipe de la bande originale. On peut pas garantir qu'un 2 janvier, on soit totalement opérationnel. Ah, il y a encore 24 heures, on se rappelait plus où on avait fini la soirée et qui était ce Bernard nu dans nos stories Instagram. Donc là, voilà, merci d'être là. Même vous, c'est vrai, vous aviez peut-être autre chose à faire que venir nous voir. Et en même temps, on se connaît pas bien, Philippe, mais j'ai l'impression que vous êtes du genre à ne pas savoir dire non. Et je sais, j'ai le même problème. J'ai le même problème avec Nagui, par exemple, qui m'a dit « Tom, tu peux venir bosser un 2 janvier ?» J'ai dit « Bah écoute, j'étais déjà là le 31, donc oui, potentiellement, je peux être là le 2. » Il fait « Ok, super, voilà. » Et moi, je suis là, et lui, non, je me suis bien fait niquer. Donc vraiment, bravo Nagui. Non mais vraiment, pas savoir dire non, c'est hyper handicapant dans plein de situations. Moi, par exemple, j'ai des potes, ils restent potes avec moi juste parce qu'ils déménagent souvent. Le jour où ils signent un CDI et ils ont les moyens de se payer d'un déménageur, je suis sûr qu'ils vont paumer mon numéro de téléphone. Dans la queue du supermarché, à qui les gens avec un article demandent s'ils peuvent passer? À moi. Et moi, je réponds quoi? Pas de problème. Alors que ça m'en pose des putains de problèmes. À quel moment avoir un seul article, ça te rend prioritaire? Avoir un bébé dans le ventre, oui. Avoir une jambe en moins, ça rend prioritaire. Mais avoir une canette de 1664, ça rend mieux alcoolique. Mais ça m'a fait plaisir de te laisser passer, Daniel. C'est pas la question, mais c'est un calvaire de pas savoir dire non. Si demain, il y a un référendum où la question, c'est êtes-vous pour la peine de mort, oui ou non? Putain, je serais capable d'avoir du mal à voter correctement. Ah non, vous voyez, Philippe, vous et moi, je sens qu'on est un peu pareil. Du coup, si jamais vous déménagez, bon, j'ai aucune envie de venir, mais sachez que je pourrais être là. Bonne émission.
Bravo.
Merci
à tous. La bande originale. Gueluc pète les plombs, on a parlé aussi du chat, et justement, allons un petit peu plus en avant sur le chat avec un événement qui est une forme de consécration pour l'enfant de Bruxelles que vous êtes, c'est que le chat va avoir son musée, et pas n'importe quel musée, le chat Cartoon Museum, et je crois que ça va être colossal.
Ça va être 3 500 m².
C'est fou.
Un bâtiment flambant neuf. Ils doivent abattre un vieux bâtiment qui n'est pas classé dans un environnement qui est hyper protégé.
À deux pas du Palais Royal.
Les gens,
hein.
les gens sont au courant. Ils sont au courant.
Ouais, c'est un hôpital en fait.
Les gens qui habitent dans l'immeuble. Non,
il faut évacuer les patients.
Surprise.
Il faut évacuer les patients de l'hôpital, démolir le bâtiment et après on fera le.
C'est ça. Non, mais à deux pas du Palais Royal. Et
c'est pour 2023.
Du parc de Bruxelles, c'est ça?
Oui, voilà. Enfin, à côté des Beaux-Arts, du musée Magritte et du site archéologique du musée de Charles Quint. Enfin, voilà. Donc c'est hyper protégé. Ce bâtiment a été abandonné il y a 40 ans, il est pourri, il y a des pigeons qui y habitent et voilà, on doit le démolir et reconstruire quelque chose de neuf. Ça, c'est la région de Bruxelles Capitale qui prend en charge et ensuite, moi, je vais prendre en charge la suite et pour ça, je dois m'adjoindre l'aide de budget de sponsors et de mécènes.
Ouais.
Voilà, je suis à la recherche de 4,5 millions d'euros. J'en ai déjà 3,7 millions, donc il me manque 3 fois rien.
Bon, c'est con, c'est con, là, autour de la table.
C'est con, on a
dit
pas
c'est con. Mais on va rajouter.
Mais alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce musée?
On va trouver 3 grands chapitres. Il y aura évidemment mon travail en petit, en moyen, en grand format, des toiles de 3 mètres par 2, des écrans vidéo, de l'interactivité, des sculptures de bronze, de tout ce qu'on veut, des objets de collection, des croquis du début, etc., des photos. Bref, tout ça autour du chat de mon personnage. Deuxième partie, ça va être un espace réservé aux hommages aux grands dessinateurs humoristes comme Sempé, Ciné. Le premier, ce sera Ciné, évidemment.
Kroll.
Sempé, Chaval, Volinsky, Topor, puis les grands internationaux, Steinberg, Ungerer, etc. Ouais. Tous les 6 mois, une nouvelle exposition. Et puis, tous les 6 mois aussi, une exposition différente consacrée au chat. Mais l'animal, cette fois-ci, le félin,
d'accord,
dans la culture humaine, depuis l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours.
D'accord.
L'Égypte ancienne, Bastet, les momies de chat, etc. On va avoir des expositions faites par des égyptologues et des objets prêtés par le British Museum ou le Louvre. Et puis, il y aura aussi l'affiche de cinéma, l'affiche publicitaire, le savon, le chat, que sais-je. Toutes les façons dont le chat est entré dans nos vies. Il a été déifié dans certaines cultures.
Ouais, il l'a encore. Et maudit dans d'autres.
Et maudit et diabolisé, notamment au Moyen-Âge. Et vous savez notamment pourquoi ? Parce que la chatte, en chaleur, appelle le mal en criant de façon un peu lascive, et que le clergé a mal vécu cette chose-là.
C'est surtout la fin du Moyen-Âge, parce qu'il faut défendre le Moyen-Âge.
La fin du monde.
En tout cas, c'est une déclinaison autour du chat. Et ça doit être un rêve de gosse, en fait, tout d'un coup. Se dire que vous allez avoir...
De faire un musée, oui. Mais non, crois que tous les enfants rêvent à ça.
Non, mais en tout cas, non, un rêve de gauche, j'entends par là. C'est-à-dire que la notoriété du chat est telle... M'aidez pas, hein, surtout Philippe Gueluc. La notoriété du chat est telle que tout d'un coup, il se voit consacré à un musée.
Oui, c'est ça. Enfin, moi, j'ai un petit peu poussé, évidemment, j'en ai pas. Je sais pas pourquoi un jour je me suis dit ça. C'est le genre de truc où on dit, tiens, je ferais bien ça, et puis on le fait. Et on se demande, mais pourquoi? Parce que maintenant, quand
ça s'appelle le mariage, Philippe, ça n'a rien à voir.
Bon, quand je vois le chantier qui se trouve devant moi, à mon âge, je me dis, mais était-ce bien raisonnable?
Mais et Philippe Gueluc, l'armée qui vous rend hommage, un musée construit, vous n'avez pas l'impression d'être mort?
Ah non, alors j'ai tout de même, j'ai aussi été décoré. Chevalier et puis officier des arts et lettres en France. Et en Belgique, je
Albert
suis
II.
Commandeur de l'ordre de la couronne. Ouais. Et ça, c'est formidable parce que quand j'étais au palais royal pour recevoir la médaille, il y avait évidemment devant moi tous les gens qui devenaient barons, chevaliers, etc. Et on était mis dans l'ordre d'importance. Mm-hmm. Et moi, j'étais le dernier. Et j'étais avec ma femme et on était là, on faisait la queue pour aller serrer la pince au roi et à la reine. Et tout à coup, je vois quelqu'un derrière moi. Et je me dis, ouf, on n'est pas les derniers de la classe. Et je dis, vous êtes quoi, vous? Et le type me dit, non, moi, je fais partie du personnel.
Et à quel moment vous avez senti que le chat, entre guillemets, vous échappait? Et vous avez dit, oh là là, effectivement, les gens s'en emparent.
En fait, il ne m'échappe pas parce que je continue à avoir la maîtrise entière de lui. Mais c'est vrai que Internet, où je vois parfois des dessins qui sont détournés, dans lesquels on efface le texte que j'ai mis pour mettre une autre connerie qui est souvent pas très drôle. Ou alors... Enfin, c'est con, j'ai mis 35 ans à me rendre compte, mais je me dis que tout ce qui a déjà été fait, mais j'ai plus la main dessus. Je l'ai eu au moment où je l'ai fait, mais maintenant c'est c'est chez les gens, dans tes toilettes, dans la tête et dans le cœur des gens, ils se le sont appropriés, et là il n'y a plus rien à faire. Même si je le faisais, si je l'abandonnais maintenant, ça ne serait pas opérant.
En tout cas, j'en connais un qui n'aura jamais un musée à Bruxelles, mais qui peut peut-être finir dans vos toilettes. Oui. C'est Guillaume Auguste.
Oh, yeah, welcome.
Pire que tu te plaignais de notre chat.
Dans quel état? On ne sait pas.
On peut toujours trouver pire.
Ça va les amis gosses?
Oui.
Non. Alors, ça me fait bizarre de faire une chronique en France à côté du compatriote Philippe Gueluc. Et je dis bien Gueluc et pas Gueluc. Chaque fois qu'un Français prononce Philippe Gueluc, un morpion meurt dans le slip de Daniel Morin. Il en reste, c'est pas
allons-y,
le problème.
Allons-y.
À ce stade, c'est plus d'intelligence, c'est une culture. Morin, c'est pas un jugement, Daniel, on a tous besoin de compagnie. Qui a un chat? Qui mille poules du pubis? Mais je dis juste que c'est bizarre ce truc que vous avez avec notre prononciation. Chaque fois que je dis que je vis à Bruxelles, il y a toujours un Français qui me dit « Ah mais j'adore Bruxelles !» T'adores Bruxelles, t'étais pas dans la même pièce quand j'ai pas prononcé le X, fils de poule. Ce côté, ils sont trop cute les Belges, ils essaient de prononcer le nom de leur capitale, ça marche trop pas. Mais c'est nos amis quand même, ça me donne envie de crever dans un mouchoir de Guy Georges. Et c'est dingue, ce sentiment d'avoir la science infuse. Je me rappelle, le seul truc que vous avez réussi correctement un peu en France, c'est l'Orangina, quoi, tu vois. Et vaguement le palais idéal du facteur cheval, point barre. Ouais, si un jour les extraterrestres font procès pays par pays, c'est pas avec la guillotine et la suppression de l'ISF, vous avez une remise de peine, hein, je peux vous dire, franchement. Et c'est fou ce rapport que vous avez aux Belges. Là, j'ai fait 2 mois de promo pour mes dates au Bataclan. Il n'y a pas un journaliste qui m'a pas dit « Vous êtes quand même beaucoup de Belges sur France Inter, non ?» C'est un truc qu'on dit jamais à Fred Sigris, par exemple. Jamais un journaliste qui regarde Sigris et qui lui dit « Vous êtes quand même beaucoup de chauves sur Inter, non ?» Il y a un écosystème, c'est la glyphosate, c'est la cantoche, tu vois, c'est quoi? Quelqu'un vole vos cheveux. Ah, ça, ce serait un vrai axe journalistique, par exemple. Comment ça se fait qu'autour de cette table, il y a 3 chauves? Ouais, c'est pas contre vous, Leïla. Hein. Je trouve que ouais, ce postiche va vous ravir. C'est pas le problème. Puis à force de picoler, il fallait s'attendre à ce que la nature s'attaque. Je dis juste que les journalistes, ils parlent toujours des Belges comme d'Inter, comme si on était un réseau mafieux et qu'on raquettait Radio France. Putain, salut Nagui. À ce propos, bisous, c'était les longues ondes à Saint-Barth et bonjour à Johnny. Mais ça porte un nom, ça, la peur des étrangers. Pas vrai, maréchal? Ça s'appelle comment?
Affirmatif.
Bah, voilà, vous en parlez beaucoup tellement ça vous met l'émotion, le racisme. C'est vrai, hein. Comme tous les racismes, votre peur de l'invasion belge, c'est un fantasme. Mis sur Inter, avec Charline Manonaker et Alex Vivrec, on est que trois humoristes, hein. Et encore Alex, c'est pas vraiment un humoriste. Enfin, allez, je veux dire. Il peut être amusant, hein, dans un dîner ou quoi. C'est vrai, je l'avais vu jouer avec un enfant. Ah, tu me vois plus, etc. Je sentais que le gosse était hilar, mais je dirais pas que c'est un humoriste au sens Michel Bougenin, tu vois. Et Charline, elle est de Wallonie, tu vois, quand on me dit qu'elle est belge, ça me fait bien marrer, vraiment. Alors, quant à moi, je fais qu'une chronique par semaine et comme on comprend un mot sur deux, c'est comme si je faisais deux chroniques par mois. Je suis tombé sur un vieil article de Paris Match, datant d'Ouvroy et de Paris Match 2015, qui parlait de Charline, d'Alex et de Stéphane de Groot et qui était intitulé, je vous promets, au cœur des médias français, quand les Belges les envahissent. Putain, tu remplaces les Belges par juifs et t'as le podcast de la semaine sur Radio Courtoisie, je veux dire. C'est fou de revenir chaque fois avec le nombre de Belges qu'on est à la radio française. Est-ce que nous, on vous parle du nombre de Français qu'on a à la radio belge? Pensez qu'il est où, Jean Roucas? Il est chez nous, ah oui. Sur la RTBF, la radio publique belge, il anime une émission de débat avec Tex, exactement, mais chez nous, il n'y a aucun journaliste qui dit tiens, Jean et Tex, vous êtes quand même beaucoup de Français à la radio. Non, pourquoi? Parce que chez nous, on considère que la francophonie, c'est une grande famille. Allez, merci les amis. Et au docteur G, notre cheval de Troie. À bientôt.
Bravo.
Bravo.
Je voulais vous demander, Philippe Gueluc, c'est récurrent en Belgique d'avoir des gens qui arrivent à percer, comme dans l'humour, sans pouvoir s'exprimer normalement. Comme on vient de le voir maintenant.
Il est bon, hein. Il est bon. Ils sont tous bien. Ça me fait d'ailleurs un peu chier de voir tous ces jeunes qui sont formidables et qui rêvent que d'une chose, c'est de prendre notre place définitivement.
Je sais pas dessiner, franchement.
Et non, mais écoutez, c'est en fait, la Belgique vivait très bien en autarcie pendant longtemps. Et puis un jour, ça s'est répandu ailleurs comme une tache comme ça sur un buvard qui passe le truc. Et puis pourquoi pas, au fond. Et puis, est-ce que c'est... je sais pas, on pourrait le demander à Guillermo. Est-ce que c'est un fantasme de se dire un jour, je serai sur Paris et puis
je parlerai à la France.
Avec ces doigts-là, peu de personnes.
Non,
oui, est-ce que c'est le rêve suprême ou pas?
Mais toi, t'as été un des tout premiers à le faire avec François Pirette et tout, à venir ici en radio. Ah non, mais après, mais je veux dire...
Oui, dans le début des années 90.
Un des seuls Belges humoristes à être en radio en France et en télé en France, ça a été un pionnier, quoi.
Alors, mais les Français, nous, on a pris exemple sur un Français qui a fait de la radio à l'étranger, c'est De Gaulle en Angleterre.
Mais il ne dit pas que des bêtises, Guillermo, et ceux qui ont pu comprendre entre deux ou trois hésitations.
Non, il est
parfait. Vous trouvez qu'on parle beaucoup des Belges, l'invasion des Belges, alors que, comme il disait, il n'y en avait que trois, quoi, sur la station.
Mais c'est beaucoup. Non, mais c'est beaucoup par rapport à une période d'avant où il y en avait zéro. C'est trois fois. Non, c'est beaucoup plus que trois fois plus que zéro.
Ah, le dessin, les maths. Rien ne m'échappe. Philippe Gueluc est avec nous jusqu'à midi et demi. Eddie, Clara Luciani dans la bande originale.
Dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Quand tous les mots de la terre ne valent pas un soupir, c'est qu'il vaut mieux se taire et dire. À croire que ta mère t'a rien appris. Y a-t-il des filles que ça touche, ces mots qui sortent de ta bouche comme des perles? Moi je m'en fais des colliers que je jette à la mer et dis. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Amours sont muets, tu aurais dû t'en douter, tu aurais dû la boucler et dire. Sûr que j'en serais pas là à t'étouffer dans les draps.
Clara Luciani avec Eddie dans la bande originale.
On parle de musique justement avec Clara Luciani. Vous n'hésitez pas à prendre en frontal un artiste qui nous a quitté l'année dernière.
Intouchable.
Intouchable, c'est Johnny Hallyday.
Absolument.
Ouais.
Qui est à moitié belge du coup.
En plus.
Et en plus, c'est un compatriote en partie.
Oui.
Et vous n'hésitez pas, alors c'est pas tant l'artiste dont il est question que l'individu, le contribuable, quoi.
Oui, voilà.
Ouais.
Le non-contribuable.
Le non-contribuable.
Dans le livre, il y a un dessin sur où on voit
un cercueil.
Un cercueil à Saint-Barth qui est entrouvert et on voit que des liasses de billets dans le cercueil. Je dis, mais où se cache Johnny dans tout ça?
Ouais.
Et puis ensuite, effectivement, un journaliste, je crois que c'était pour BFM, qui me questionne sur ce dessin-là, me demande de
vous expliquer.
Un petit peu, oui, d'en dire plus. Et Charles Aznavour venait de nous quitter aussi, et j'ai simplement dit que j'étais un petit peu étonné de voir la France rendre deux hommages nationaux avec Marseillaise, drapeau sur le cercueil et tout, à deux grands fraudeurs fiscaux. C'est vrai que j'aurais pu ajouter Olivier Dassault, qui a eu aussi son hommage aux Invalides, qui a tout de même eu des condamnations pénales, ouais. qui on n'a pas fait faire sa peine de prison parce qu'il était trop âgé, etc. Mais donc tous ces gens qui volent le peuple français en ne payant pas leurs impôts là où ils ont gagné leur argent, moi ça me paraît un petit peu pas bien, comme certains sportifs, pour ne pas citer les sportifs. Enfin, je ne veux pas non plus faire le mur des traîtres.
Mais... Si, parce que très vite, on commence à voir comment on peut compenser les déficits français aussi.
Mais vous savez que si on arrivait à juguler la fraude fiscale en France, ouais. on récupérerait 80 milliards d'euros. Et à l'échelle de l'Europe, ça réglerait définitivement le problème de la dette. Mm-hmm. Alors, il faut voir la
politique. Comment on explique alors que le peuple français...
Un petit correctif, on attendra que Olivier Dassault soit mort. C'était Serge Dassault qui avait dit.
Mais je soupçonne, ceux qui sont en vie de suivre le même chemin. Non, pardon, toutes mes excuses aux vivants.
Comment vous expliquez-vous, Philippe Geluck, que le peuple français soit capable de participer à cet hommage national s'il est question de Johnny Hallyday ou de Charles Aznavour? Et à la fois descendre dans les rues pour dire voilà, on n'arrive pas à boucler nos fins de mois, on s'en sort pas, et ne pas remettre en cause ces idoles-là.
Ben c'est comme avec le foot, hein, on vénère des gens qui tapent dans un ballon et qui gagnent des milliards aussi, qui en placent une partie à l'étranger. C'est quelque chose de tabou finalement, c'est que l'amour qu'on a pour les sportifs et pour les artistes est tellement plus grand que la conscience de l'immoralité de leur statut fiscal.
Et c'est français ça, vous pensez, c'est inhérent aux Français d'avoir ce rapport-là à...
Ah non, regardez la moitié du peuple américain qui vote pour cette enflure de Trump, c'est pareillement le même phénomène.
Michel Houellebecq n'est pas d'accord. Hein.
Pardon ?
Michel Houellebecq pense que c'est un très très bon président.
Le meilleur.
Et en Belgique, il y a des cas similaires ?
Ah ben il y a par exemple un milliardaire qui s'appelait Albert Frère qui vient de nous quitter. En fait, je m'attaque toujours aux morts parce qu'ils peuvent plus venir me casser la gueule.
C'est prudent.
Non, Albert Frère qui était un capitaine d'industrie, qui était milliardaire au-delà de l'imaginable et dont on s'est rendu compte il y a quelques années qu'il avait payé 762 euros d'impôts en Belgique. Et donc je crois qu'il avait fait quelques placements à l'étranger aussi.
Mais c'était pas une figure comme ça aimée du grand public.
Je pense qu'on avait même Justine Hénin, par exemple, je pense qui habitait à Monaco à un moment, qui était partie à Monaco.
Une joueuse de tennis,
qui était notre joueuse de tennis, qu'on adorait tous, etc. Effectivement, ça dépasse un peu cette espèce de raison qu'on peut avoir sur le fait qu'elle s'est exilée fiscalement, et on l'aimait parce qu'elle était notre représentante et qu'elle gagnait Roland-Garros, quoi.
C'est-à-dire, si les sportifs jouaient pour le drapeau du pays dans lequel ils payaient leurs impôts, la Suisse et Monaco seraient sur le podium.
Ah, ouais. Philippe Geluck, on va revenir en musique sur quelques années clés de votre parcours. On commence en 1972. Perfect Day, Lou Reed.
Et en 72, c'est votre première expo, Philippe Geluck, aux Beaux-Arts de Bruxelles. Vous vous souvenez ou pas ?
J'avais 18 ans.
Ouais.
Ouais. Et j'ai participé à une grande exposition qui s'appelait La Vénus de Milo ou Les dangers de la célébrité.
Ouais.
Et qui regroupait des œuvres de beaucoup d'artistes.
Man Ray.
Man Ray, Dali, Follon, je sais plus qui, enfin des sculpteurs, des peintres, etc. qui avaient tous. Il y avait la fameuse Vénus au tiroir de Salvador Dali. Et les commissaires de l'exposition m'avaient demandé aussi de produire quelques œuvres et de raconter raconté la découverte de la Vénus de Milo en dessin et aquarellé, ce que j'ai fait. Et puis donc j'ai exposé à côté de ces très grands, ce qui tout de même, mais sans me la péter en même temps. Ouais. Je me disais que c'était bon pour eux, ça allait les faire revenir dans l'actualité.
Mais après la Vénus de Milo est revenue souvent dans votre œuvre.
Oui, ça a dû être le, voilà, on a
personnage récurrent.
La petite graine. J'avais fait à l'époque une Vénus de Milo avec les deux bras dans le plâtre.
Et le dessin, finalement, à la maison, c'était pas un art étranger. Votre père était dessinateur.
Il a été dessinateur de presse avant ma naissance, de 45 à 53. Il est devenu distributeur de films ensuite.
Ouais.
Et il a fait de la caricature politique. Il était très militant à gauche, militant communiste. Il dessinait pour le Drapeau Rouge, qui était le journal équivalent à l'Humanité en France. Mmh. Et il dessinait pour la paix dans le monde et il rêvait d'un monde plus juste.
Et il détestait Disney et...
Simplement, moi, j'ai jamais su que Disney existait. Je voyais, quand j'étais petit, les dessins animés de La Petite Taupe, qui étaient les dessins animés tchécoslovaques, mais je n'ai jamais vu aucun Walt Disney dans mon enfance.
Ça, c'est pas mal à dire aux parents qui subissent Disney ou les parcs Disney, dire on peut élever un enfant...
Sans Disney.
Voilà, en lui faisant ignorer l'existence de Disney.
Mais c'est-à-dire
en
fait. Pour respecter les parents, il faudrait maintenant que ce soit des enfants communistes qui interdisent ça à leurs parents.
Et un dessin dont vous vous souvenez de votre père en particulier ?
Oh, des caricatures, il faisait des unes de journaux avec des caricatures. Alors, il a peu fait de dessins purement humoristiques. Il y en a un dont je me souviens que j'ai retrouvé récemment en classant ses affaires. C'est à une inauguration d'exposition de peinture, des types, les officiels qui sautent au-dessus du ruban, vous savez qu'on doit couper avec les ciseaux parce que l'hôtesse a oublié d'apporter les ciseaux. Voilà. C'était gentil. Hein.
1976.
Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange, ma vie.
Optimisation fiscale avec Johnny Hallyday. Gabriel.
Non, alors là, c'est pas pour lui. C'est bien sûr grande admiration, mais c'est pour aider la famille.
C'est un petit don.
C'est ça, c'est pour les droits de diffusion. En 76, Philippe Geluck, vous montez avec des copains le théâtre Hypocrite.
Oui.
Une sorte de pendant du Splendide. Ouais.
Ouais, et du Café de la Gare, voilà, c'était ce problème. J'étais jeune comédien, j'étais sorti de l'INSAS, qui est une école de théâtre, et on voulait faire notre théâtre à nous. Alors j'ai par ailleurs joué des grands rôles au Théâtre National, j'ai joué Maki dans l'Opéra de Katsu, j'ai joué Werther, j'ai joué du Marlowe, de Faust, etc.
Vous vouliez être comédien ?
Oui, je voulais être comédien. Je l'ai été pendant 10 ans. Mmh. Et là, on a fait du théâtre, de café-théâtre, notamment avec des choses qu'on écrivait nous-mêmes, notamment le Lorgnon fédéral. Et puis, on a monté Les Gros Chiens de Chaval, une pièce de copie aussi, le dessinateur du Nouvel Obs. Et on a fait des choses hilarantes. Enfin, tellement drôles parfois qu'on riait nous-mêmes sur scène, ce qui est toujours pas chouette pour le public, mais c'était vraiment bien.
Et il y avait une critique qui est venue vous voir et qui a dit « Ah super, pour une fois on a affaire à des jeunes gens qui sont cultivés », alors c'est plutôt une belle critique, mais vous ne l'avez pas reçue exactement comme ça ?
Non, parce que c'est sur le nom du théâtre. Mmh. On voulait trouver un nom un petit peu bizarre qui n'ait rien à voir avec le théâtre. Et manque de bol, hypocrite, ça veut dire en grec, hypocrites, l'acteur.
Ouais.
Et c'est là qu'elle a souligné notre culture, et c'était pas ce qu'on voulait.
C'était un hasard.
Petite anecdote, c'est aussi dans ces années-là que vous rencontrez votre femme. Dany, vous avez dit tout de suite, j'ai su que ça allait être elle. Coup de foudre immédiat. Elle, quand on lui pose la question, elle dit « Moi aussi ». Et vous dites « Non, elle ment ».
Ça lui a mis 3 jours, je crois, à s'en rendre compte. Moi, ça a été à la seconde même, mais ça ne s'est pas démenti. Puis ça fait 42 ans qu'on vient de fêter nos 42 ans de rencontre.
Oh, c'est beau, ça.
Jusqu'à midi et demi, Philippe Geluck dans la bande originale.
Et nous a rejoint Benoît Peters. Bonjour, Benoît Peters.
Bonjour. Bonjour, Benoît.
Vous êtes écrivain, scénariste, professeur à l'Université de Lancaster. On vous connaît beaucoup pour vos bandes dessinées. Aussi Les Cités Obscures, je suis une grande fan, donc je suis ravie de vous rencontrer, que vous signez avec François Schuiten. Vous êtes un des grands spécialistes d'Hergé, je pourrais faire une grande, grande liste parce que votre pédigré est quand même assez impressionnant. Vous êtes conseiller éditorial aussi chez Casterman, là où publie Philippe Geluck, vous vous connaissez bien j'imagine. On vous fait venir aujourd'hui pour nous parler justement de la place de la Belgique dans la bande dessinée. Avec votre expertise, quelle est la place de la Belgique aujourd'hui ? Alors, on en a beaucoup parlé par le passé avec de grands représentants, on pense à Hergé notamment, mais aujourd'hui, qu'en est-il ?
Ben d'abord, on ne peut pas raconter l'histoire de la bande dessinée en Belgique sans Hergé, c'est évident. Hergé, en 1929, commence Tintin. Mmh. Quelques jours, ce sera son 90e anniversaire, puisqu'il est le 10 janvier. Et finalement, s'il n'y avait pas eu Tintin, s'il n'y avait pas eu Hergé, s'il n'y avait pas eu de plus en plus de personnages, de lecteurs jeunes et moins jeunes autour de lui, il n'y aurait pas eu de bande dessinée belge. Je crois que s'il y a eu après ces extraordinaires journaux qui étaient Spirou et Tintin, avec leur rivalité, Spirou un peu plus gros-né, un peu plus directement rigolo, Tintin apparemment un peu plus sérieux, mais les choses étaient plus compliquées, ça se serait pas passé comme ça. Donc la Belgique est devenue une terre d'accueil pour bande dessinée au point... Je me souviens des premières interviews que je donnais dans ma jeunesse où il y avait un journaliste un petit peu naïf qui disait « Mais alors au fond, comment faites-vous en Belgique pour avoir autant d'auteurs de bande dessinée ?» Et mon ami Benoît Socal, l'auteur de Canardo, avait dit « C'est très simple, dès le plus jeune âge, dans les maternelles, on fait des tests pour les deux orientations fortes. Et donc, il y a l'orientation coureur-cycliste et l'orientation BD, et on les sélectionne, etc. » Et le journaliste notait froidement. Alors, une chose qui est amusante à noter aussi, c'est que au moment où va s'éteindre Hergé, après la carrière que l'on sait, apparaît le chat. Il y a comme un passage de relais, c'est extraordinaire, on est en 1983, et Hergé, qui a tant donné à la bande dessinée, disparaît, et immédiatement, le chat apparaît. Alors, y a-t-il eu un effet de réincarnation de Tintin ou d'Hergé en chat ?
Alors, c'est même plus troublant que ça, puisque le soir du 3 mars, au moment à 10h30 du soir où je crée le chat, où je l'invente pour le proposer au journal le soir le lendemain, donc c'est des croquis, mais je le crée exactement à ce moment-là. C'est l'heure exacte où Hergé mourait dans une clinique bruxelloise en grand secret.
Donc c'est bien, on sait désormais qui a tué Hergé.
c'est plus fort que Midable, comme disait l'oncle Anatole.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ce lien entre la Belgique et la bande dessinée, au-delà de cette sélection qu'on fait dans la cour d'école, on a bien compris. Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent d'expliquer le fait que la bande dessinée soit aussi fructueuse en Belgique ?
Oui, il y a eu peut-être un poids de la culture littéraire un peu moins fort. Je crois qu'on a reçu beaucoup plus vite cette alliance de mots et de dessins. On l'a accepté. Si vous prenez les très anciennes bandes dessinées françaises, il y a toujours des légendes en dessous. On explique, on raconte ce qu'il y a dans l'image. En Belgique, quand on a commencé Tintin, avec, on n'employait pas le mot phylactère, bulle, ballon, Hergé disait les paroles sortent de la bouche des personnages. Et tout de suite, on l'a compris. Et chose amusante, quand Tintin au pays des soviets a été peu après édité dans Cœur Vaillant, eh bien, les curés qui dirigeaient Cœur Vaillant ont ajouté des légendes pour expliquer. D'accord. Donc, les petits Belges étaient capables de comprendre tout de suite. Et les petits Français, ils avaient besoin d'un coup de pouce. Donc, certainement, il y a quelque chose qui a semblé plus naturel, plus immédiat. Et puis, cette émulation, cette rivalité saine entre les dessinateurs, et alors tant de séries immortelles, évidemment Lucky Luke, même s'il y a un co-auteur français pendant un moment, avec Goscinny, Black et Mortimer, Spirou, et tant d'autres, jusqu'à maintenant, jusqu'à des bandes dessinées de toutes sortes, pour les jeunes et pour les moins jeunes.
Philippe. Petite précision, quand Benoît dit que les curés de Cœur Vaillant ajoutaient des petits commentaires, c'était souvent « Viens mon petit sur mes genoux, je vais te lire l'histoire de Tintin chez les soviets. »
Si tu n'as pas tout compris.
C'est ça. Ou peut-être aussi qu'il y avait une forme de considération de l'art aussi qu'est la bande dessinée, parce que on a vu, ça met beaucoup de temps encore pour que les gens considèrent que la bande dessinée est un art noble et respectable de ce point de vue-là. Est-ce qu'en Belgique on l'a compris plus vite ?
Oui, vous savez, je crois qu'au temps de Tintin au Congo et des premiers Spirou, la question d'art n'était pas vraiment la première. Non, c'était plutôt une forme joyeuse, naturelle, qui empruntait aussi à une autre tradition, qui est celle, au fond, des peintres miniaturistes, de ces peintres flamands qui adoraient représenter les moindres détails. Hergé disait quelquefois, mon travail est un travail d'enlumineur. Il y a une tradition étonnante dans la bande dessinée belge, c'est une tradition extrêmement soignée, finie. Je parlais de Black et Mortimer, mais Jacobs, par exemple, c'est quelqu'un qui pouvait attendre des semaines qu'on lui envoie un document sur une poubelle japonaise pour dessiner la poubelle exacte. On se souvient aussi de Jacques Martin, avec Alix et cette reconstitution extraordinaire des décors de l'Antiquité. Ça, c'est quelque chose que la bande dessinée française pratique un peu moins. De ce point de vue-là, d'ailleurs, notre ami Gueluc est entre les deux, parce que il n'attend pas les documents sur les poubelles japonaises pour dessiner un gag du chat.
C'est-à-dire que si on veut se plonger dans les décors du chat, c'est assez c'est vite fait.
La thèse qui était prévue là-dessus ne s'est pas terminée, je crois.
C'est-à-dire
sur l'importance du décor chez Philippe Geluck.
Je suis trop impatient. Je n'attends pas le document sur la poubelle japonaise. Je publie le dessin avant que...
C'est pas votre truc, ce rapport-là au détail, par exemple, comme l'évoquait Benoît Peters ?
Non, parce que j'essaye de porter une idée, et une fois qu'elle est écrite, je me dis à quoi ça servirait de dessiner une ville médiévale derrière le chat, ça n'apportera rien au gag. Si ça pouvait apporter quelque chose, bien sûr, je ferais. Ouais. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé l'utilité.
Toujours pas. Benoît Peters, aujourd'hui, on a la sensation que les Français ont le vent en poupe dans le monde de la bande dessinée et qu'on parle peut-être un petit peu moins des dessinateurs belges.
Alors, la bande dessinée s'est internationalisée. À une époque, il y avait une bande dessinée belge, puis belgo-française, puis franco-belge. Aujourd'hui, disons que les francophones, voilà. Ouais. Alors, il y a de grands talents en Belgique, mais ils ne se font plus reconnaître en tant que Belges. Ce qui est très amusant, c'est que la bande dessinée belge a créé à un moment, dans les années 50-60, une vraie mythologie. Et il y a des gens, des dessinateurs, des lecteurs, des amateurs, qui connaissaient une Belgique fantasmée, avec son atomium, ses petites maisonnettes, une certaine américanisation que la France ne connaissait pas, un goût de la modernité. On a développé vraiment une Belgique désirable. Et c'était un petit monde en soi. Aujourd'hui, les gens voyagent, les bandes dessinées se croisent. Et quand Riyad Satouf nous propose l'Arabe du futur, il ne se soucie pas de savoir si c'est une bande dessinée française, belge ou autre. C'est une bande dessinée pour tout un chacun. Mais il reste énormément de très très grands dessinateurs. Tout récemment, on avait Comès, par exemple, qui était merveilleux dessinateur de Silence.
Et
Isler, avec sa série Sambre. J'ose à peine citer mon ami François Schuiten, comme vous dites, ou Schuiten, comme disent ses compatriotes. C'est pas grave.
On l'appelait François. Mais...
il vit à Bruxelles. Non, je plaisante.
C'est cela, oui.
Pardon.
Et non, ça reste très vivant. Je crois qu'il y a plus de dessinateurs de bande dessinée, plus d'auteurs de bande dessinée en Belgique que dans n'importe quel pays du monde. Simplement, ils n'arrivent pas tous les jours avec leur drapeau, leur bande dessinée parle pour eux.
Ouais. Il y a le Japon aussi.
Le Japon, oui, c'est pas mal. Il y a un peu plus de kilomètres carrés quand même.
Justement, en termes de tendance de bande dessinée, qu'est-ce que vous voyez apparaître en ce moment? Quand on se rend dans une librairie et qu'on regarde un peu comme ça les rayonnages, on voit de la BD un peu plus dite traditionnelle, j'ai envie de dire, qui reprend des traits propres à Hergé, Blake et Mortimer. On trouve des romans graphiques où là, les codes sont complètement explosés et on peut même se demander si c'est vraiment de la BD à proprement parler. Qu'est-ce que vous voyez apparaître à l'horizon?
Moi, ce que j'aime, c'est cette ouverture. Je ne me dis jamais, est-ce que c'est vraiment de la bande dessinée? Je crois que ce qui est merveilleux, c'est qu'elle puisse s'adresser aux très jeunes, aux plus âgés, qu'elle puisse faire rire, qu'elle puisse nous apprendre quelque chose, qu'on sorte parfois du terrain de la fiction, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de bandes dessinées de non-fiction.
Oui.
Il y a de l'autobiographie, il y a de l'engagement politique, il y a des drôleries sarcastiques, il y a des drôleries gentilles. Non, vraiment, la bande dessinée est devenue quelque chose de tout à fait imposant. Et au moment où nous débutions à peu près ensemble, Philippe Geluck et moi, vers le début des années 80, je crois qu'on ne pouvait pas imaginer que la bande dessinée deviendrait quelque chose d'aussi riche, d'aussi ouvert, d'aussi vivant, et qu'au fond, sans utiliser de technologies compliquées, à l'heure où on a le jeu vidéo et Internet, des gens continuent à raconter, à nous faire vibrer, à nous faire rire, avec simplement quelques traits en couleur ou en noir et blanc sur une feuille de papier.
Et quel genre de... Pardon.
Non, vas-y.
Quel genre de bande dessinée vous lisez, Philippe Geluck? On parlait des bandes dessinées qui sont soit humoristiques, soit qui rendent compte du réel, avec des séries journalistiques qui sont exceptionnelles, ou de la fiction, ou des mondes un peu comme les cités obscures. Qu'est-ce que vous lisez, vous?
Je lis peu de bandes dessinées. Ouais. Je lis beaucoup de textes noirs. Je lis les productions de mes amis, mais je suis pas un grand lecteur. Je veux dire, à côté de Benoît Peters.
Peters.
je
Bruxelles, non, je présente.
Je suis voilà un consommateur très petit. J'ai des éblouissements notamment hier, je voyais une jeune dame à côté de moi dans le train qui lisait, ou qui, je sais pas si elle le relisait, moi je l'avais lu depuis longtemps, un livre de Fab Caro qui s'appelle Zai, donc j'avais découvert à sa sortie et que je trouve exceptionnel. Comme disait Benoît, c'est la magie de ce métier. C'est de pouvoir créer un univers complet avec deux lignes. Et aussi de se dire que peut-être la bande dessinée va encore pendant quelques années tenir le coup face à l'invasion du numérique, parce que autant il m'arrive de lire des livres sur une tablette parce que oui. c'est léger, parce que je peux lire en gros bouquin qui pèse un demi-kilo comme ça. Et en bande dessinée, je crois que l'album va continuer à vivre parce qu'il y a un attachement du public pour cet objet oui. qui, sur écran, sur tablette ou sur truc, ne fonctionne pas ou fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Le livre reste pour moi le plus bel objet inventé par l'humanité et l'album en est un.
Mais juste une petite question, j'ai acheté il n'y a pas longtemps un Michel Vaillant dans une grande librairie, c'était 15 €, et mon père m'a sorti un Michel Vaillant de sa jeunesse qui était à 15 francs. Est-ce que ça freine pas aussi les jeunes à acheter pas mal de BD et...
bon, bah voilà. Surtout pour du Michel Vaillant.
Ça s'est fait. Ça s'est fait.
Mais, non, là, tu peux lire un catalogue de marques automobiles aussi, qui est donné gratuitement chez les concessionnaires.
Non, mais 15 euros, on est dans la moyenne des tarifs d'une bande dessinée.
Après, oui, les bandes dessinées sont bien fabriquées. Et puis n'oublions pas le nombre de lecteurs par album vendu. Ouais, ouais. N'oublions pas la place des bibliothèques où les bandes dessinées sont les livres les plus empruntés. C'est vrai que parfois une bande dessinée se lit vite, d'autres fois elle se lit très lentement. Mais je crois que le nombre de lecteurs par album, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on les fait souvent cartonner, ouais. bien solides, pour qu'ils puissent vivre assez longtemps.
Et n'importe quel petit roman d'un auteur qui débarque de n'importe où coûte 22 euros. Oui. Et la fabrication du livre
sauf les mangas. Sauf les mangas. Ce qui explique d'ailleurs une grosse partie de leur succès.
Oui, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher pour le coup. Mais après, il faut en acheter aussi un certain nombre pour avoir la série complète. Oui, donc au final, ça, on peut réfléchir à ça. Bien, merci Benoît Peters d'avoir été avec nous. Je rappelle que on peut trouver vos bandes dessinées, notamment Les Cités Obscures, avec François...
Skuyten.
Ou voilà.
Schuyten, ça va aussi.
Voilà, et que vous êtes auprès de la maison Casterman et que vous êtes surtout un des grands spécialistes d'Hergé. Vous avez publié 3 ouvrages qui ont fait date sur le sujet. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et lui, je peux vous dire qu'il n'est pas bon marché du tout. C'est Tanguy Pastureau. Ah, Tanguy, bonjour, vous êtes
bonjour.
Là.
Bonjour.
Alors, il paraît que les abeilles sont en train de mourir par milliers.
Oui, oui, mais le grand public s'en fout parce qu'on ne s'identifie pas à une abeille, à part 3-4 clampins qui ont la jaunisse. Mais la bonne nouvelle, c'est que des Finlandais, ces gens blancs à cheveux orange, qui en fait ressemblent à des cotons-tiges qu'on viendrait de s'introduire dans l'oreille, ont trouvé un vaccin pour abeilles, Daniel.
Ah ben, on va développer tout ça dans la deuxième partie de l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 en compagnie de monsieur Philippe Géluc en direct de Bruxelles. C'est le retour de la bande originale, toujours sans Nagui, mais avec Frédéric Siglis.
Bonjour.
Guillaume Auguin.
Absolument.
Albert Algou.
Bonjour.
Tom Villard.
Bonjour.
Tanguy Pastureau, qu'on retrouve dans quelques instants. Et Leïla Kadeghoboudali.
Bonjour à tous, notre invité toujours, Philippe Géluc.
Bravo.
Bonjour.
Rebonne année, pas un poil de chat dans Geluc pète les plombs, cette fois il va trop loin. Le troisième tome de cette série chez Casterman, ça vaut le coup d'ailleurs d'avoir les trois, comme ça on continue l'histoire avec vous. Mais pour les grands amoureux du chat, ne vous inquiétez pas, le chat pète le feu. Bonne nouvelle, il est toujours chez Casterman là aussi. On en a combien d'albums du chat?
Il y a 21 albums, dont 3 doubles, un triple et quelques best-of. Voilà, donc c'est beaucoup.
Ouais.
J'y repensais l'autre jour, je me dis, l'émotion, enfin Albert a dû vivre ça aussi, l'émotion du premier livre qu'on publie. Le mien, c'était en 86. Et quand il arrive de l'imprimerie, avant qu'il ne sorte dans les librairies, on l'a dans les mains et c'est un rêve de 3 décennies qui se réalise. Et puis, dès l'apparition du deuxième... Quand on le reçoit, on regarde s'il est bien imprimé, s'il est bien broché, etc. Puis on le met de côté et ensuite, c'est comme ça. L'émerveillement, c'est souvent autour des premières fois.
Ouais.
Et ce qu'il faut, c'est recréer de la première fois. Voilà. La première fois, ici, dans ce nouveau livre d'Angeluc pète les plombs, première fois que je vais vraiment aussi loin.
Oui, alors justement, là, je tombe sur un dessin qui représente...
un prêtre.
Schumacher. Schumacher, pour le coup, vous n'hésitez pas non plus à vous attaquer à lui. Racontez-nous le dessin.
C'est pas à lui que je m'attaque.
C'est
parce
la société
que lui...
de consommation et tous les étiquetages et tout le...
Voilà, c'est-à-dire que sur les couvertures, il y a des marques de cigarettes, d'essence, de bagnoles, etc. Et je mets Schumacher, les sponsors gardent espoir. Et donc, il est comme il était de son vivant, ouais. avec des trucs collés partout. Vous savez, la différence entre un champion automobile et nous, c'est que nous, la marque du vêtement est cousue à l'intérieur.
les marques sont cousues à l'extérieur. Oui, c'est à l'extérieur. Et ça, est-ce qu'il y a des dessins où vous dites, là, je suis peut-être un peu borderline, potentiellement, je peux redouter de déplaire au public qui m'aime tant pour le chat, parce que c'est pas complètement anodin non plus.
Mais en même temps, le public me dit que ça le fait rire.
Ouais.
Et en séance de dédicace, quand des dames d'un certain âge viennent faire dédicacer des livres pour leurs enfants, je dis faites attention sur celui-là. Tout de même, lecture accompagnée, mm-hmm. Ne donnez pas. Justement, sur Gueluc, pète les plombs. Il y a une amie journaliste que je croise l'autre jour au restaurant et qui me dit « Attends, j'ai reçu ton livre, enfin j'adore, il est formidable, mais tout de même, je le lisais l'autre jour avec ma fille, et elle me demande, qui a 12 ans, et elle me demande « Maman, c'est quoi une sodomie ?» Et je dis « Mais ça, tu prends tes responsabilités, c'est marqué sur la couverture, c'est pas pour tout le monde.
Bah oui.
Donc lis plutôt Le Chat avec elle, mais pas cela. » Et donc les dames qui viennent me demander ça, elles disent « Non, c'est pas pour faire un cadeau, c'est pour nous. » Et on adore quand vous allez trop loin, ne vous gênez pas. Et donc on me pousse, moi c'est encore une fois, c'est pas moi. On me demande de faire ça, mm-hmm. Vous comprenez ? C'est les autres qui sont...
C'est les autres, c'est pas moi.
Si le public rit, c'est bien la preuve que c'est pas de ma faute à moi.
Puis aussi, il y a quelques vérités, il y a quelques retours sur l'histoire. Là, par exemple, je vois, scandale, Volkswagen, il nous l'avait dit, je construirai des autoroutes qui dureront 1000 ans, je concevrai une voiture du peuple que nous produirons à plus de 100 millions d'exemplaires et qui gazera pour des siècles, des siècles. C'est Adolf Hitler qui raconte ça.
Oui.
Voilà, aucune retenue, c'est presque du harakiri. Du harakiri, on va voir si... Il nous en produit, c'est Tanguy Pastureau qui maltraite l'info. Tanguy, les abeilles sont des êtres petits mais formidables.
Oui, parce qu'elles produisent du miel, alors que les teckels, par exemple, produisent des crottes. Or, personne n'a envie l'hiver de bouffer des gaufres aux crottes. Les abeilles sont indispensables parce qu'elles contribuent à la pollinisation de 90% des cultures mondiales. Sans elles, dans le paquet de Frosties de votre gosse, il n'y aurait rien, et le petit serait contraint de bouffer le carton. Une seule abeille au niveau de l'utilité pour la planète vaut donc toute la population de Perpignan. Daniel, moi, vous, on sert à rien concrètement. Chaque jour, on utilise des tas de feuilles pour imprimer des âneries. Résultat, les forêts disparaissent. Tout ça pour distraire 4 pleupleux qui se marraient plus sur RTL ou Europe 1 à l'écoute des pubs pour la matmute. La moindre abeille nous est largement supérieure. On devrait donc les vénérer. Virer Macron de l'Elysée, foutre à sa place une reine des abeilles. Et dans la bâtisse, il se passerait la même chose que maintenant. C'est-à-dire qu'une bestiole pas plus douée que les autres serait là à glander, tandis qu'une foule d'autres individus s'activerait juste pour qu'elle bouffe. Mais l'être humain est un con. Et depuis des décennies, asperge la nature de poison, pesticides, glyphosate. À la moindre chenille, les mecs se mettent à hurler « Riton, passe-moi un briquet, la bombe d'Erwick qui est dans les chiottes, je vais la cramer, cette fille de chien !» Et ils exterminent tout dans un rayon de 3 km. Ce qui fait que des bébés naissent sans mains, sans pieds, sans rien. En fait, les mamans donnent naissance à une oreille. C'est une sorte de vide Van Gogh inversé. Et que la biodiversité est aussi morte que l'espoir d'avoir à nouveau un président socialiste. Les abeilles meurent par milliers. 30% de mortalité en France ces dernières années, soit le même taux de décès que si à l'EHPAD d'Aix, on faisait jouer le groupe Sepultura. Mais les gens s'en tapent, parce qu'ils n'ont pas de rapport direct à l'abeille. Jamais une abeille bourrée ne vous tape dans le dos en vous disant « Toi, t'es mon pote pour la vie ». Aucune abeille vous prêtera 900 euros pour acheter de la coke. Oui, je sais, c'est trop, mais enfin, les abeilles ne savent pas à combien elles grimpent. Ni ne pensera à souhaiter votre anniversaire. Si demain, les gonzes qui vendent les pesticides disent au boss de la FNSEA « Bébé, on est désolé, mais nos machins ont tué ta mère, ta sœur et pire, ton chat qui a fugué et s'est approché d'un champ de maïs en 2 secondes, il a clamsé. Bah, dans l'heure, le produit est interdit, mais les abeilles, ils s'en foutent. Alors que si elles disparaissent toutes, comme l'ont fait avant elles les boys bands et les personnes qui rêvaient de se faire prendre par François Bayrou. Bon, il faut dire qu'elles étaient une François Bayrou, mais enfin, il vieillit, c'est assagi. Mais s'il n'y a plus d'abeilles, on est foutu. Il faut donc les sauver. D'autant qu'elles meurent aussi à cause des virus et des attaques de frelons asiatiques 16 fois plus gros et plus puissants. C'est le Teddy Riner des insectes. Pour les sauver, parce que sinon plus de miel, et à la radio, on aura tous la voix de François Baroin s'il s'était râpé la glotte à la ponceuse, des chercheurs ont eu l'idée, Leïla, de les vacciner.
Les vacciner, vous voulez dire comme nous à la pharmacie contre la grippe?
Oui, Leïla, sauf que les abeilles sont pas remboursées puisqu'elles vivent dans un monde sans argent. Comme Philippe Poutou, qui est une sorte d'abeille mais sans dard. Moi, quand je le vois à la télé, je suis toujours surpris qu'il se mette à crier mort au capital et au patron. Je m'attends à ce qu'il bourdonne et qu'à un moment, Nicolas Dose de BFM l'éclate avec une tapette en murmurant d'un RBH, t'es eu crevure gauchiste. Mais figurez-vous que des chercheurs de l'université d'Helsinki Helsinki en Finlande, qui n'ont rien d'autre à faire à part manger des cracottes sous un ciel plombé en attendant la mort, ont découvert que l'abeille peut être vaccinée. Alors nous, quand on se fait vacciner, c'est simple. On se fait piquer. Si on est une femme, on dit merci docteur, au revoir. Si on est un homme, on dit pardon docteur, j'ai la tête qui tourne, est-ce que je peux rester allongé parce que je pense que c'est la fin. Le médecin nous inocule la maladie à dose minime, les anticorps se réveillent et la carcasse entière se mobilise contre le mal. Mais les abeilles n'ont pas d'anticorps. C'est ce qui les différencie de nous. D'autres choses, au contraire, les rapprochent de nous. Par exemple, le fait qu'elles non plus ne regardent pas Public Sénat. Et puis, impossible de piquer une abeille avec une seringue. On a déjà du mal à attraper Agnès Buzyn, ministre de la Santé, entre deux siestes, pour lui claquer un bout de grippe dans le biceps, histoire de rassurer les vieux. Mais les Finlandais ont cherché, ils n'ont rien d'autre à faire à part croire en la social-démocratie en achetant des bonnets, et ont découvert que l'abeille développe une immunité contre une bactérie dès lors qu'elle l'ingère. Ah. C'est comme si nous, après avoir mangé indien une fois au resto L'Éléphant à Trois Trompes de Boulogne, on était immunisés à vie et qu'ensuite on pouvait boulotter un restant de nain de fromage jeté dans la boue par un lépreux de New Delhi. Ils ont donc filé à une reine des abeilles un sucre imbibé d'une maladie qui les trucide, et non seulement la reine a été immunisée, mais aussi ses futurs petits. Or, une abeille a des centaines de bébés, alors qu'ils n'ont même pas la CAF, donc ça sert à rien. Enfin, chez nous, même dans les Hauts-de-France, on s'arrête à 7. Résultat, on a des générations d'abeilles résistantes aux maladies. Si en plus on stoppe le glyphosate, elles vont toutes nous survivre. À la fin, il restera plus que vous, Daniel, enfermé à la maison de la radio, plus des abeilles qui veulent votre peau. Une reine de vacciner, c'est tout un peuple de sauver. Si ça marchait comme ça pour l'humain, il suffirait de piquer Elisabeth II, qui à cause de ses vêtements ressemble à une abeille. Et l'ensemble des Britanniques seraient vaccinés aussi. Mais c'est la première bonne nouvelle pour la faune depuis des années, avec le retour de Michel Houellebecq, qui héberge sur lui 24 milliards d'acariens. Pour eux, c'est l'équivalent de l'Aquarius. Bref, 2019 au niveau faune et biodiversité commence bien.
Bravo Tanguy. La bande originale. Gueluc pète les plombs cette fois, il va vraiment trop loin, Philippe Gueluc, chez Casterman. C'est le nouvel opus, on n'a pas parlé aussi des textes, parce que là, il y a une place accrue au texte, contrairement au chat, où pour le coup, on est vraiment dans des bulles et des gags, et c'est très très rapide. Là, vous nous donnez le temps aussi de nous installer dans la thématique que vous allez développer.
Oui, ce sont des chroniques que j'écrivais un moment pour la presse. Dans ma page du soir, je mettais un petit texte.
Ouais.
Et puis, j'y exprimais des préoccupations. Voilà, comme vous le faites si brillamment tous les jours à la radio. Et là, ça devait être lu. Et puis, finalement, quand j'ai arrêté de le faire dans le journal, j'ai continué à le faire pour moi et puis pour le livre. Donc, la mécanique est là. Et c'est un autre plaisir. C'est-à-dire que dans le dessin, je dois être absolument paf avec une punchline très rapide.
Ouais.
Voilà. Un jour, récemment, j'ai fait un dessin où le chat disait « Si je fais des phrases si courtes, c'est pour être certain que vous me lisiez jusqu'au bout. » Dans une chronique, c'est pas toujours le cas. On sait pas. Si les gens abandonnent peut-être en cours de route, donc il faut les accrocher, les emmener dans un délire d'improvisation, parce que l'écriture, c'est que de l'improvisation. Mm-hmm. Heureusement qu'on ne fait pas devant le public. On fait ça dans la solitude. Et puis, quand on pense que c'est au point, on le publie. Mais c'est évidemment un autre plaisir. Et je m'y déverse parfois de façon un petit peu plus cruelle encore que dans les dessins.
Que dans les dessins, je trouve
mais
aussi.
Mais là aussi, on a l'impression que vous excusez aussi, parce que, cher lecteur, chère lectrice, et à un moment, vous interrompez votre texte pour mettre une petite pastille avec un type qui a l'air d'être très concentré sur un livre, et les petites bulles, c'est oh, jusqu'ici, qu'est-ce que c'est bien, quelle densité, comme pour vous excuser d'avoir fait trop de verbiage.
Oui, c'est ça. Mais...
C'est la fausse modestie de Philippe Gueluc pour dire à quel point c'est brillant et c'est intense.
Mais si je ne le dis pas moi-même,
mais bien sûr. Alors, où est-ce que vous travaillez? Vous évoquiez la solitude. Est-ce que vos méthodes de travail ont changé avec le temps pour dessiner ou pour écrire justement ces chroniques?
Alors, j'ai toujours dessiné dans la solitude de mon atelier. Et puis un jour, j'avais trop de travail, c'est-à-dire qu'il fallait faire aussi les factures, les rendez-vous, les virements à la banque, etc. Et donc, j'ai engagé quelqu'un pour le faire à mes côtés. Et puis un jour, comme je continuais à faire des expositions et puis des trucs et puis des machins, il avait trop de travail, lui. Donc, j'ai engagé quelqu'un pour assister mon assistant. Et aujourd'hui, il y a 8 personnes autour de moi. Et
8 personnes.
Oui, et je dessine dans un environnement qui est un petit peu bruyant. Mais j'aime ça aussi, parce que c'est des jeunes et qui, voilà, ça me fait fait. C'est un genre humain qu'il est plaisant de fréquenter, le jeune, quand on devient vieux soi-même.
Ou quand on arrive à le comprendre.
Et donc, moi, j'essaie d'inventer mes trucs, mais ouais. En même temps, je les écoute. Par contre, quand j'écris, là, je demande qu'ils ferment leur gueule, 5 minutes pour me concentrer vraiment.
Vous ne travaillez jamais à l'extérieur, en terrasse de café? Parce que quand je vois certains dessins, je trouve que je peux penser à des fulgurances quand on voit passer des gens, et ça ressemble un peu à ça parfois.
Mais enfin, vous prenez comme exemple un dessin d'une femme qui accouche. Donc elles accouchent peu aux terrasses de café.
Je n'ai pas encore cité l'exemple.
D'accord,
je
non, mais moi
après.
Je vois ça. J'anticipe.
Vous flânez dans les maternités pour prendre.
Non, vous pourriez travailler en terrasse de café comme ça.
Je le fais aussi, c'est-à-dire que dans le train. Alors. Rassurez-vous, enfin, je veux rassurer ma famille, mais elle le sait, c'est que je travaille jamais dans la vie privée. Je suis pas du genre à noter des idées comme ça qui me passent par la tête en disant attendez les gars, j'ai une idée géniale. Attends. Non, quand je suis avec les autres, je me consacre totalement à eux. Et quand je travaille, je travaille. Quand je suis seul, en revanche, je m'autorise dans le train, une terrasse de bistrot, de trucs en attendant un rendez-vous, de prendre des notes.
Est-ce qu'il a été difficile de faire le choix là? Je pense non pas au dessin de l'accouchement, mais à celui qui fait référence à un fait d'actualité, l'abus sur des mineurs. En Centrafrique, où on voit un militaire avec le drapeau français qui s'adresse à un petit garçon noir. Et il lui dit, ce militaire, nous sommes là pour vous libérer. Et le petit garçon répond, sexuellement?
Oui. Voilà, mais c'est hélas un truc d'actualité.
Ouais.
J'en fais un dessin qui est pas... Voilà, est-ce qu'il est drôle? Est-ce qu'il est juste grinçant? Mais l'actualité elle-même est tellement plus dramatique que le pire dessin que je pourrais en faire, que la question de ma moralité ne se pose même pas.
Et là, on tombe parfaitement dans votre définition de l'humour, qui est page 16. L'humour, c'est une forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité avec un certain détachement, c'est ça?
Ça, c'est la définition du Robert, que je cite dans un chapitre qui s'intitule « L'humour expliqué aux imbéciles ». Vous l'avez lu?
Ah oui, j'ai compris. Merci. J'ai senti que c'était pour moi et je me suis plongé dedans. Merci. Ah ben c'est ça, la générosité des Belges. Philippe Geluck est avec nous jusqu'à 12h30. Sundress, ASAP, Rocky. Vous êtes bien dans la bande originale sur France Inter. ASAP Rocky, Sundress dans la bande originale.
Et Fred Sigrist est avec nous, lui aussi, en ce début d'année, Fred Sigrist. Hey.
Alors, c'est ça. Bonjour Monsieur Geluck.
Bonjour Monsieur Fred.
Alors j'aimerais profiter de votre présence autour de cette table pour parler d'un phénomène, du statut social du chat dans nos sociétés.
Ah.
Oui, parce que depuis une heure, on rigole, dans une débauche de bonne humeur surjouée, typique des émissions de divertissement, hein, qui tentent juste à faire oublier qu'on va tous probablement crever d'un cancer dû à la pollution atmosphérique, aux religieux fanatiques, aux perturbateurs endocriniens ou à un nouvel album de Jules. Et, Jules. Je sais pas, c'est Jules. Oui, Jules. Oui.
Jules. De toute façon, j'ai pas envie de l'appeler. Oui, hein, ne confonds pas.
Parce que Jules,
oui,
voilà.
Il
y a notre ami Jules.
Oui, Jules. Pas le dessinateur, enfin, pas le scénariste, mais Jules l'autre, là, avec ses doigts bizarres. Bref. Vous vous rendez compte que si des extraterrestres cherchaient à étudier le genre humain via les réseaux sociaux en ce moment, il y a de très fortes chances qu'ils en arrivent à la conclusion que l'espèce dominante de cette planète, ce ne sont pas les êtres humains, ce sont les chats. Il n'y a pas une vidéo de ces animaux couillons qui dépasse pas le million de vues. C'est surréaliste. Au niveau mondial, il n'y a rien qui passionne plus le genre qu'une vidéo de chatons. Le jour où France 2 remplace Laurent Delahousse et Leïla par un couple de chats, l'audience du JT, mais ça va être un truc de malade. Les chats passionnent le monde. Et la seule question qui vaille, c'est pourquoi ? Parce que j'ai grandi entouré de chats et je peux le dire sans aucune hésitation, il n'y a pas plus con comme animal.
Non.
Avoir un chat à la maison, c'est comme avoir un adolescent sous son toit, mais en plus souple. Ça dort une grosse partie de la journée, ça a en permanence dans les yeux un profond mépris pour ce que tu représentes. Ça te regarde, t'es le roi des cons. Hein. Ça sent fort, ça vient te voir que quand ça veut quelque chose, et en période de chaleur, c'est insupportable. La seule différence étant que tu peux faire castrer le chat là où l'ado reste intouchable par souci de convenance tristement conservatrice. Le chat ne sert strictement à rien. En comparaison, le lombric, cet animal qui partage avec le notaire cette capacité à se nourrir sur le dos des morts, est bien plus utile. Même au niveau fiction, à la télé, on peut toujours compter sur un Tintin, tu vois. Il rex, il défixe, tu vois. Ouaf, ouaf, comment Timmy est en train de tomber dans un puits, tu vois. Même Flipper le dauphin, les... Comment Timmy est en train de se noyer? Mais quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez vu un chat se bouger le cul pour rendre service à qui que ce soit? Là, le chat, il y a des chiens d'aveugles, il y a des chiens des mineurs, mais alors le chat, lui, tu sens que trouver un job, combler les déficits, relancer la croissance, tout ça, mais il s'en branle. Ouais. Un chat, le matin, qu'est-ce qu'il fait? Dépote ton minet, ça saute sur ton lit en t'agitant son trou de balle au visage, ça fait ses griffes au mieux sur ton fauteuil, au pire sur ton bras, ça se purge en bouffant les feuilles de ton yucca, et ensuite ça t'annonce que ça va gerber en
c'est tout à fait ça. Bravo.
Parmi tous les animaux de compagnie qui accompagnent notre existence au fil de l'évolution, le chat est la seule espèce à avoir grandi. Le chien, lui, a rapetissé, mais au fil des siècles, des études montrent que le chat, lui, devient de plus en plus grand, parce que c'est un des seuls animaux qui bénéficie totalement de l'écosystème dans lequel vit l'être humain. En gros, le chat, c'est le rentier ultime. Nourri, logé, soigné, les chats, c'est les actionnaires du genre animal. Ça vit sur le dos des gens. Le chien, lui, tu sens qu'il est plus du côté du prolétariat, tu vois, il est toujours content de voir son maître, il est là, il se rebelle rarement, tu lui envoies un bâton, il te le ramène, tu renvoies le bâton, il retourne le rechercher. Le chien est un peu con, hein. Il fait souvent la même chose en espérant un résultat différent. S'il avait eu le droit de vote, il aurait voté pour Sarko en 2007, Hollande en 2012 et Macron en 2017. Oui, en imaginant que ça allait faire quelque chose de différent. Il est comme ça, le chien. Mais le chat, ça te coûte une blinde.
Non.
La ma fille, en ce moment, elle nous saoule pour avoir un chat. Ouais. Eh ben, je me suis renseigné sur les prix, mais je savais pas que je devais choisir entre un chat ou ses études. Mais entre les vaccins, le panier, la litière ou la chatière, rien que pour un chat low cost, hein, le bâtard, quoi, la marque repère des chats, hein, le Daniel Morin des chats, tu vois, c'est déjà 463 euros minimum. Pour la bouffe, j'ai lu que c'est environ 545 euros par an pour 70 grammes de nourriture pour un chat de 5 kilos. Et pour la litière, c'est 150 euros par an. Donc j'ai fait le calcul, un chat qui vit, allez, disons 15 ans, il t'aura coûté en moyenne 10 888 euros. 10 888 euros.
Vraiment, ouais,
mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont des chats chez eux et ils sont en train de regarder, ils font oh la vache. Donc franchement, dans ces périodes où tout le monde a des problèmes de pouvoir d'achat, je crois que la question mérite d'être posée. Faut-il buter le chat? Non, mais c'est vrai. Et finalement, monsieur Gulluc, je crois qu'on peut le dire, vous êtes la seule personne que je connaisse à avoir réussi à s'enrichir grâce à un chat.
Bravo, frère. Bravo. On se retrouve sur scène en 2019, Fred.
Oui, toujours au Théâtre des Deux Ânes, tous les mercredis à 20h.
Allez applaudir Fred Sigris sur scène. Vous avez un chat dans la vie, Philippe Gulluc?
Non, je n'en ai plus.
Ah.
Non.
Sujet délicat, là.
J'en ai eu toute ma vie. Pardon. Et puis là, comme beaucoup, on se déplace beaucoup entre Bruxelles, Paris, etc., je me dis qu'un animal dans un appartement, c'est ouais. compliqué.
Et, voilà. et vous avez conscience que ça coûtait aussi cher, un chat?
Non.
Mais non,
mais donc, d'où l'intérêt du prix d'un album, 11,95 €. C'est bon, même avec
il
la collection complète, mais bien en
dessous. Il est
mais
malin. Le best-of, le chat pète, le feu chez Casterman, il faut le rappeler, bien sûr, Philippe.
Vous êtes plus un dieu vivant chez Casterman ou en Belgique?
Mais je paye mes impôts en Belgique et je permets à l'éditeur de vivre, de boucler son année et puis de pouvoir engager des jeunes auteurs, de découvrir des talents, etc. C'est aussi ça le rôle des auteurs qui deviennent un peu anciens dans la maison.
Vous vouliez dire quelque chose à Frédéric ?
Oui, à Fred, parce qu'il parlait des vidéos, des chats qui font des millions de vues, oui. Et c'est vrai. Alors nous, il y a 2-3 ans, on s'est dit, tiens, pour la promo d'un album qui s'appelait à l'époque « Le chat fait des petits », on s'est dit, on va faire une petite vidéo avec des chats, avec des vrais chats. Et on a tourné dans un vrai studio avec des chatons qu'on guidait en mettant du Kit Kat sur le truc pour les faire avancer, etc. On avait fait un petit décor d'une librairie dont le volet se levait quand les chats arrivaient et ils découvraient l'album « Le chat fait des petits ». Et on s'est dit, ça va être une tuerie. C'était hyper mignon. Ils arrivaient les uns derrière les autres, etc. Il y en avait 10 environ. Et ils se mettaient tous devant la vitrine. Hop, et on découvrait l'album. Et on a fait 28 000 vues.
Ah mais non, c'est
oui,
un
ça a été une catastrophe. Ça nous a coûté la peau des fesses. Ça. Et ça n'a pas fait ça. Alors que justement, un chat qui se pète la gueule en ratant la table, ça fait des millions de vues. La vie est injuste.
On mettra la vidéo sur le site de l'émission. Comme ça, ça vous fera un peu plus de vues.
Oh, vous êtes
voilà,
gentil.
Philippe Gueluc,
oui, mais déjà,
va vous
si
aider.
Vous regardez tous les 7,
ça
va faire.
Ça fait plus de vues.
On regardera plusieurs fois.
Qu'est-ce que vous nous préparez par la suite là? On a parlé de Gueluc pète les plombs. Cette fois, il va trop loin chez Casterman. Même chose avec le chat qui pète le feu, lui, de son côté. Que vous nous préparez quoi, pardon, dans la suite?
Donc,
j'ai essayé de pas les mettre dans l'ordre.
Que je vous prépare un musée
à Bruxelles.
C'est
pas sympa.
À toi, quoi faire?
Au-delà du, oui, il y a le musée.
Que je vous inviterai à faire une émission. Ça serait sympa de faire une émission encore. Mais c'est en 2023.
Oui. Ah ouais, on sera peut-être plus là.
Émission. Enfin, que, si. Enfin, si les abeilles sont toujours Daniel, là, vous serez
lui,
toujours là.
Il y en a qui seront morts.
Oui, mais enfin, on emmènera les urnes de penser à eux.
Bien sûr.
2023, d'ici là, je vais sortir sans doute des... Je continue à dessiner pour les journaux,
ouais.
Je continue à sculpter, beaucoup d'expositions en préparation, gros projet d'exposition urbaine avec des sculptures en bronze de grand format.
D'accord.
Voilà,
du
ça
monumental.
C'est pour 2020,
ouais.
Mais je vous en parlerai à l'occasion. C'est aussi compliqué de quand on annonce les choses qu'on va faire après. Vous dites, mais je voudrais vous parler des choses que je viens de faire. Ah mais non, mais vous en avez parlé il y a 2 ans. Donc je ne vous dis rien. Je ne vous parle plus.
On en reparlera à une prochaine occasion, Philippe Gueluc. Il est quand même temps de vous présenter nos excuses.
Oui, désolé les amis, et désolé déjà pour les fans du gaucho, bobo, vegano, Fred Sigrist. Ils ont découvert la vraie nature de leur héros, un déglingo assoiffé de pouvoir totalitaire et de dictature. Ah ouais, mais ça, c'est son côté fan de Nagui. Et désolé pour les fans intégristes de Philippe Gueluc, qui habite Bruxelles, et qui ont été à juste titre très déçus par leur idole, qui était infoutu de se souvenir de sa naissance. Ah, les Belges, quelle race étrange. Désolé pour les fans de Morane qui ont été très choqués par le réalisme de Philippe Gueluc concernant l'état de santé de leur idole. Pour tout dire, je suis encore choqué. En même temps, c'est vrai, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles.
Philippe Gueluc a retrouvé en librairie avec Gueluc pète les plombs ou avec le chat à nouveau qui pète le feu. C'était un plaisir de vous avoir avec nous.
Ouais, merci Philippe.
Et merci à chacun d'entre vous autour de la table pour cette émission. On se retrouve demain, bien entendu. Notre invité, ce sera Barbara Hendrix. Et puis tout de suite, Daniel.
Carnet de campagne avec Philippe Bertrand. Bonne journée à tous et l'écoute de France Inter.
Salut.